Musique apaisante qui peut s'écouter très bien avant d'aller se coucher. Et pour mieux dormir, à part la musique, des habitudes alimentaires à prendre sont importantes, Isabelle.
Ben oui, parce qu'on sait, pardon, le sommeil de qualité, c'est pas un luxe, hein. Ça contribue à notre santé, ça colore notre humeur, ça consolide la mémoire, ça fait bien d'autres choses aussi. Et l'alimentation et le sommeil sont liés de plusieurs façons. C'est pas évidemment la seule chose. Il y a des soucis, le petit hamster qui tourne, mais dans mon cas aussi, probablement la ménopause. Mais ce sur quoi on a le contrôle, entre autres, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, ça fait varier la production des hormones qui régulent le sommeil et la détente, comme la mélatonine et la sérotonine. La digestion a un effet sur notre sommeil et certains aliments excitent ou, au contraire, aident à relaxer. Donc, c'est important de bien choisir. Donc, on a 7 conseils. Le premier concerne la composition du souper. Au déjeuner, on mise sur des protéines pour bien démarrer, mais le soir, un repas plus léger et riche en glucides complexes et moins riche en protéines favorise la production de mélatonine et de sérotonine, justement, ces deux hormones qui aident à la détente et au sommeil. Par exemple, des pâtes ou du couscous avec beaucoup de légumes et un peu de poisson ou de tofu, une salade repas à base de quinoa et de légumineuses ou encore une soupe repas avec du poulet. Et là, dans le cas de la soupe repas, vous allez voir, ça interfère peut-être un peu avec l'idée de ne pas boire beaucoup de liquide juste avant le sommeil. Donc, assurez-vous simplement qu'il y a un bon moment entre le repas et
l'heure du coucher. Ouais.
Et en tout cas, on évite les repas très gras, très épicés ou trop copieux parce qu'ils allongent la digestion, ils augmentent la température du corps et peuvent provoquer du reflux, autant d'éléments qui vont perturber notre sommeil. Des conseils pratiques donc pour le souper, privilégier les cuissons avec peu d'huile ou de beurre plutôt que la friture et réserver les sauces crémeuses et les plats très relevés pour le midi. Deuxième conseil concernant le moment du souper. Donc, le moment du souper compte autant que ce qu'on mange au souper. Pour la plupart des gens, terminer le repas principal au moins 2 heures avant de coucher, ça permet à la température corporelle de baisser et à la mélatonine de monter naturellement. Bon, on dit pour la plupart des gens parce qu'évidemment, c'est différent pour chaque personne, mais ça, c'est une moyenne. Un souper trop près du moment du dodo, ça rend l'endormissement plus difficile. Les astuces, donc, laisser au moins 2 heures entre le souper et le coucher. Si besoin, avancer le souper de 15 à 30 minutes et observer l'effet, est-ce que ça va vraiment faire une différence? Et si vous soupez tôt, ben, prévoyez une petite collation équilibrée vers 20 heures pour éviter de vous coucher affamé. 20 heures, évidemment, là, dépendamment à quelle heure vous vous couchez. Si vous couchez à 1 heure du matin, c'est pas 20 heures, mais vous voyez, là, on ajuste. Et pour les idées de collation, on va le voir plus loin, là, ce qui est une bonne idée de manger à ce moment-là. Ensuite, troisième conseil pour la caféine en milieu ou en fin de journée. La caféine, ça agit pas de la même façon chez tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont ressentir les effets jusqu'à 8 ou 10 heures après l'avoir consommé. Donc, évidemment, le cerveau reste vigilant au moment d'aller s'endormir. Donc, les recommandations, ben, premièrement, connaître sa propre sensibilité à la caféine. Moi, je sais que 5-6 heures, c'est en masse là, avant d'aller me coucher, mais pour certaines personnes, ça va être différent. Il y en a qui pour lesquels ça n'a aucun impact du tout, peu importe le nombre d'heures. Pour ça, c'est important de savoir sa propre sensibilité. Privilégier évidemment le café décaféiné ou des infusions légères après la mi-journée, évidemment là, en moyenne. Et évidemment, pensez aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, aux sources moins évidentes, le chocolat, les colas ou les boissons énergisantes.
On parle de chocolat noir, de chocolat blanc, de chocolat au lait?
On parle de chocolat noir, mais moi, je voulais inclure tout le monde, parce que c'est sûr que dans le chocolat noir, il y a plus de caféine, parce qu'il y a plus de cacao. Mm-hmm. Oui, on parle plus spécifiquement de chocolat noir. Ensuite, l'alcool en soirée, quatrième conseil. Un verre d'alcool peut aider à s'endormir, mais son effet est souvent trompeur parce que l'alcool fragmente le sommeil, augmente les réveils, accentue les ronflements et réduit la phase de sommeil paradoxale. Donc, on va peut-être mieux s'endormir, mais notre sommeil va être moins réparateur. Donc, on conseille de se limiter à une consommation, par exemple 150 ml de vin ou 360 ml de bière, dépendamment du type de boisson. Terminer cette consommation au moins 3 heures avant d'aller au lit et boire au moins autant d'eau que d'alcool. Parce que l'alcool, ça déshydrate. On ne sait pas mentionner, mais je pense que c'est entre autres pour ça. Ça va aussi diluer l'alcool. Ça, c'est toujours ma théorie à moi. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais j'essaie toujours de diluer l'alcool dans mon sang.
Je pense que ça a beaucoup de bon sens, ce que vous dites.
En tout cas, on recommande de boire beaucoup d'eau quand on boit de l'alcool. Cinquième conseil, donc, concernant les collations en soirée. Donc, on l'a mentionné un peu plus haut. Si vous avez faim avant le coucher, une petite collation peut aider à l'assoupissement. L'idée, ben, quelque chose de léger qui contient à la fois des fibres et des protéines, donc qui va calmer, mais sans relancer une digestion lourde. Des idées rapides, un kiwi et une poignée d'amandes, une pomme avec du beurre d'arachide, du yogourt avec des petits fruits ou encore des crudités ou des craquelins de grains entiers avec du houmous. Donc, on combine les fibres avec la protéine. Le sixième conseil, donc concernant hydratation tardive, tisane relaxante et lait chaud. On a souvent entendu parler de prendre un petit lait chaud avant de se coucher pour bien s'endormir. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment efficace?
Allez-y.
Non. Je ne sais pas, oui. J'ai un doute, mais peut-être.
Donc, le lait chaud contient du tryptophane et du calcium qui sont essentiels à la synthèse de la mélatonine, l'hormone, une des hormones du sommeil, mais son effet direct sur le sommeil n'a jamais été prouvé.
C'est ça.
Ça pourrait être simplement son effet réconfortant, peut-être un effet placebo, parce qu'on pense que ça va nous aider. En tout cas, c'est pas nécessairement déconseillé d'en boire avant de le coucher, mais s'il y a pas, ça va pas nécessairement nous aider dans un sens ou dans l'autre.
Fake news!
Mais ce qui est certain, c'est que trop boire juste avant de coucher, c'est s'exposer à des réveils nocturnes pour aller faire pipi. Mm-hmm. Alors, c'est recommandé d'étaler votre hydratation sur la journée et de ralentir en soirée. Une tasse de tisane relaxante comme la camomille, verveine, tilleul, valériane, bue de 45 à 60 minutes avant le dodo, ça peut faire partie d'un rituel apaisant. Mais en bref, on conseille de préparer des boissons sans caféine et si on prend une tisane, une seule tasse. Et le septième conseil concerne moins l'impact de la nourriture sur le sommeil, mais plutôt l'impact du manque de sommeil sur l'alimentation. Parce que quand on manque de sommeil, on a tendance à manger plus parce que la ghréline, qui est l'hormone de la faim, augmente et la leptine, qui est l'hormone de la satiété, diminue. Et donc, on va avoir plus tendance à choisir des aliments sucrés et gras. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, les conseils, si on a mal dormi, malgré une courte nuit, ben, garder autant que possible 3 repas équilibrés dans la journée, non pas plein de grignotage entre les repas. Adopter et maintenir, si possible, une routine favorable au sommeil, on peut inclure peut-être la petite tasse de tisane relaxante là-dedans, et envisager de courtes siestes réparatrices, évidemment, encore une fois, si possible. En conclusion, donc, il n'y a pas d'aliment miracle qui aurait un effet somnifère immédiat pour tout le monde. Revoir la composition, par contre, des repas, c'est un bon point de départ pour mieux dormir. Une quantité, excusez-moi, j'étais pas dans le bon paragraphe. Donc, mieux réussir à identifier les habitudes et les aliments qui nous nuisent ou qui sont nos alliés. Et en général, c'est les mêmes pour tout le monde, mais on a vu que pour certains détails, il faut l'adapter à notre propre réalité. Mais c'est un bon début pour passer de bonnes nuits. Le sommeil se façonne à coups de petits gestes quotidiens. Voilà.
Montougo.ca, 7 habitudes alimentaires pour mieux dormir, signée Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure, conférencière, chroniqueuse. Merci Isabelle.